Voilà. Alors, dans Marc chapitre 11, verset 23, pour les personnes qui nous rejoignent, eh bien, cela fait déjà depuis plusieurs semaines que j'enseigne sur la foi, c'est-à-dire comment croire Dieu qu'on ne voit pas et comment recevoir ce qu'il nous a promis. Parce que la vie avec Dieu n'est pas simplement de croire en un Dieu invisible, en croisant les mains et en espérant qu'on arrive au ciel une fois qu'on aura quitté cette terre. La foi, ça n'est pas ça. La foi, c'est connaître personnellement Dieu à travers Jésus-Christ. Et la foi, c'est avoir une communion avec Dieu à travers les Écritures, qui va nous permettre de découvrir ce qu'il nous a promis pour cette vie ici-bas et pour la vie qui continue au ciel après. Le ciel est un endroit bien, bien réel où vont tous les croyants. Et il y a un endroit qui est bien précis parce qu'il est appelé la Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire une fois que notre corps tombe comme un vieux vêtement usé, eh bien, nous continuons à vivre pour l'éternité, avec ou sans Dieu, en fonction de ce que nous avions choisi, tandis que nous étions encore dans notre corps. Mais en attendant, quelqu'un qui a accepté Jésus dans sa vie, eh bien, il devrait y avoir une différence entre celui qui choisit de vivre avec Dieu et celui qui choisit de vivre sans Dieu. Donc, grâce aux Écritures, nous pouvons apprendre à faire confiance à Dieu. Alors vous allez dire, mais est-ce si important que cela? Oui, parce que nous les êtres humains, nous ne connaissons pas plus loin que ce qui se passe au bout de notre nez. Nous avons des projets familiaux, nous avons des plans de carrière, nous savons plus ou moins où nous voulons habiter, combien de pièces nous voulons en plus, comment nous voulons, dans quel confort nous voulons terminer notre vie sur terre. Mais la vérité est que seuls, nous ne savons rien et que seuls, nous ne pouvons rien. Ce qui est assez intelligent, c'est de faire appel à celui qui sait tout et qui peut tout et qui, par amour pour chacun de nous, va nous aider à vivre dans les meilleures conditions ici-bas. Et le plus important, c'est qu'il nous aide à découvrir la raison pour laquelle nous sommes nés sur terre. Encore faut-il savoir. Comme un rabbin l'a dit, si vous ne savez pas pourquoi vous vivez sur terre, alors vous n'avez pas encore vécu. Au cours de ces dimanche, eh bien, j'ai partagé avec vous des principes, et notamment celui qui consiste à parler à l'existence ce que nous voulons voir. Mais pas simplement parler à l'existence, mais parler ce que Dieu dit. La parole a un pouvoir créateur qui vient de Dieu. Dieu a créé tout cet univers par sa parole. La chaise sur laquelle vous vous tenez a été créée par la parole de Dieu et a été créée par la parole des hommes quand les hommes ont découvert comment créer une chaise. Avant qu'elle soit réalisée, elle a dû être parlée d'abord. Marc chapitre 11, verset 23, Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, la montagne représente un obstacle, représente quelque chose de plus grand que nous, représente quelque chose qui se dresse dans notre vie. Il dit, ou un adversaire, et que cette personne devant son problème dit, ôte-toi de là. Il dit, celui qui a le problème parle au problème. Beaucoup de gens n'arrêtent pas de parler du problème. Le Seigneur nous apprend à parler au problème. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit, pas ce qu'il prie simplement. Parce que les gens pensent que la prière, c'est juste penser. Non, le Seigneur nous apprend à prier en parlant. S'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est-à-dire, pour que tu vois quelque chose s'accomplir dans ta vie, il faut que tu apprennes à dire ce que Dieu dit. Alors, il faut que nous trouvions ce que Dieu dit. Alors, je ne vais pas reprendre tous les messages que j'ai faits sur le sujet, mais cela fait quand même depuis pas mal de temps que je parle sur l'importance de la parole. Ce qui nous, une des choses qui nous dissocie des animaux. Les animaux sont des êtres uniquement instinctifs. Ils n'ont pas le libre arbitre. Nous, les êtres humains, nous avons un libre arbitre. Nous pouvons faire des choix. Et même si les choix sont en désaccord avec ce que Dieu veut. Vous êtes avec moi? Également, les animaux n'ont pas l'image de Dieu en eux. Nous l'avons. La Bible dit que quand Dieu a soufflé sur l'être humain pour qu'il devienne vivant, l'être humain a reçu le souffle de vie. Et d'ailleurs, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il rend quoi? Il rend. Un être humain ne peut pas se créer lui-même. Il rend le dernier souffle. Et le mot souffle, c'est le mot esprit. Un être humain est un être spirituel. Et la Bible nous dit, c'est un être, un esprit qui parle. Donc la Bible nous dit de faire attention à ce que nous disons. La Bible dit, si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Dans Proverbes, chapitre 18, versets 20-21. Alors, quand nous découvrons les promesses de Dieu, quand un malade ou quand quelqu'un qui a un problème financier, quelqu'un qui a une décision à prendre pour son travail ou autre, eh bien, découvre ce que Dieu dit, à partir de ce moment-là, il parle ce que Dieu dit. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire que Dieu ne peut pas faire quelque chose dans notre vie sans notre coopération. Beaucoup de chrétiens sont passifs. Ils disent, ah, parce que Dieu peut tout, alors qu'il fasse ce qu'il veut. Ça n'est pas, ça mes amis, ça n'est pas le principe biblique. Dieu peut tout, mais il s'est limité à ce que nous disons. Parce qu'il nous a créés à son image. Et que nous sommes des êtres qui parlons. Ce qui veut dire qu'il est possible que ce qu'un chrétien dise fasse obstacle à sa foi. Si un chrétien ne fait pas attention, il peut savoir ce que Dieu dit. Il peut connaître la promesse de Dieu. Il peut croire à la promesse, mais s'il ne parle pas la promesse ou s'il dit le contraire de la promesse, sa foi ne sera pas du tout efficace. Nous avons parlé la dernière fois, vous rappelez, des paroles dites en l'air. Existe-t-il vraiment des paroles en l'air? Nous avons vu que non. Alors cette fois-ci, nous allons voir un autre genre de parole. Proverbes chapitre 18, vous avez trouvé verset 20-21. Il est dit, c'est grâce au fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre et c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Là où la mort sévit dans ta vie, tu peux parler la vie. Trop souvent, on est préoccupé par ce que les autres disent de nous. Mais Dieu dit, tu as dans ta bouche le pouvoir de vie ou le pouvoir de mort. Tu peux parler la mort sur ton travail si tu ne fais pas attention. Ou tu peux parler la vie. Qui aime se répandre en parole mangera les fruits. Qui aime goûter, parler, en goûteront les fruits. Une autre version dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en parole mangera les fruits qu'elles auront produits. La Passion Bible dit, vos mots sont si puissants qu'ils tueront ou donneront la vie. Et la parole et la personne bavarde en récoltera les conséquences. Ce qui me dit, il vaut mieux ne pas parler à la légère. Maintenant, regardons dans Colossiens chapitre 3, verset 8. Alors, ne pas parler à la légère, mais cela veut dire que je peux parler la vie dans mon quartier. Si quelqu'un voit que son quartier est en train de tomber en ruine, parlez la vie. Il n'y a pas de limite. Le Seigneur n'a pas dit parlez la vie uniquement sur votre corps, parlez la vie uniquement sur vos finances, parlez la vie uniquement sur votre état spirituel. C'est juste la mort ou la vie. Colossiens chapitre 3, verset 8 à 10. Ici, cette exhortation s'adresse aux chrétiens. Je vais vous lire cette version, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Je vous lis maintenant la suite, dans une autre version, mais pas à l'écran. Dans la Bible en français courant. Mais maintenant, rejetez tout cela. Quoi ? La colère. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se mettre en colère, mais nous sommes en train de parler des paroles. Il y a juste un temps pour exprimer verbalement la colère. Ça n'est pas bon, ça ne veut pas dire qu'il faut que l'on garde pour soi. Si quelque chose nous déplaît, nous avons le droit de le dire et nous devrions de le dire à condition que ce soit un, dans une bonne attitude, deux, dans le but de s'édifier et non pas de se lâcher, et trois, de le dire au bon moment à la bonne personne. Ce qui veut dire, eh bien, attendre avant de parler. C'est ça la clé. Mais il ne faut pas croire qu'on n'a pas le droit de parler non plus. En revanche, il est dit, rejetez la colère, l'irritation, la méchanceté. Écoutez bien, la suite m'intéresse. Qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. Parole grossière, discours grossier, bas, obscène, c'est parler honteusement. Ne mentez pas les uns aux autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes. Et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature, vous êtes des êtres nouveaux, que Dieu notre Créateur renouvelle continuellement à son image, pour que vous le connaissiez parfaitement. Une autre version dit, mais maintenant vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, malfaisance, calomnie, paroles choquantes. Éphésiens chapitre 4, là j'ai votre attention, j'ai l'impression que j'ai votre attention. Y aurait-il des mots qui vous parlent ? Éphésiens chapitre 4, versets 29 à 30. Ici c'est qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui procurent une grâce à ceux qui communiquent. Une grâce à ceux qui l'entendent. Je vous lis dans cette version-ci. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, sauf si vous êtes vraiment énervé. Si l'autre vous a tapé sur les nerfs ou qu'il vous a fait une queue de poisson alors que vous étiez en retard au culte, alors moi, le Seigneur, je comprendrai. Pourquoi ça vous fait rire ? Hein? « Vous connaissez Capitaine Haddock? Est-ce que Capitaine Haddock conduit votre voiture? Est-ce que c'est Capitaine Haddock qui répond à votre femme ou à votre mari quand vous êtes énervé? Alors, Éphésiens chapitre 4 nous dit qu'il ne sorte, je vous le lis, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Le mot malsain veut dire corrompu, pétrifié, indigne, de pauvre qualité, mal employé. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et le verset 30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Ce qui veut dire qu'il y a des paroles qui attristent le Saint-Esprit, en sachant que le Saint-Esprit habite dans le cœur de toute personne qui a accepté Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand on prononce des paroles grossières, quand on prononce des insultes, et il n'est pas dit uniquement quand nous sommes en colère. Vous savez combien de personnes prononcent des paroles grossières juste pour s'amuser? Vous savez combien de personnes prononcent des paroles grossières uniquement pour se fondre dans le moule? Et vous ne croyez pas que ces paroles affectent votre foi, mes amis? Vous croyez que c'est anodin? Vous croyez que nous pouvons nous amuser avec les mots comme ça nous chante, quand ça nous chante, où ça nous chante, mais que quand nous voulons exercer notre foi, et que là nous avons besoin de prononcer des paroles de Dieu, parce que nous voulons que quelque chose dans notre vie change, ou nous voulons que quelque chose peut-être dans notre pays ou au travail change, et après, nous nous demandons, je me demande pourquoi ma foi ne marche pas. Ben peut-être que là, nous découvrons quelque chose dans ce silence. Vous savez, il y a des mots que Dieu ne veut pas que nous utilisions. Ce n'est pas seulement notre mère. Vous savez, aucun mot grossier n'est dans la Bible. Peut-être que vous m'avez entendu dire ça, mais en hébreu, il y a des mots qui n'existent pas. Par exemple, le mot « coïncidence », parce que le hasard n'existe pas pour Dieu. L'hébreu est le langage de Dieu. Quand Dieu a donné les tables de la loi, il a parlé en hébreu. C'est en hébreu que ça a été gravé. Gloire à Dieu, il nous parle en français à nous. Le mot « retraite », on sait que ça n'existe pas. Le mot « adolescent », ça n'existe pas. Un adolescent, c'est un adulte qui se comporte comme un enfant. Mais il y a des mots qui n'existent pas dans la Bible, ce sont les mots grossiers. Et pourtant, nous savons que l'apôtre Pierre était un homme extrêmement impulsif. Vous savez ce que j'ai entendu? Puisque les mots grossiers n'existent pas, que font les maçons en Israël? Ben, ils parlent arabe. Quand il se tape quand il loupe un coup de marteau, c'est un mot en arabe qui sort. Alors ça n'a rien de, c'est pas par rapport à nos amis arabes, bien évidemment. C'est pour vous dire que ça n'existe pas. Dieu connaît l'importance de nos paroles. Pourquoi Dieu ne veut-il pas que nous employions des mots grossiers, nous les chrétiens, alors qu'il y a des mots grossiers dans les films? Il y en a à l'université, il y en a dans les cours d'école, il y en a au travail, il y en a dans la rue. Partout, on entend ces mots-là. Il y a peut-être des raisons. Eh bien, je vais vous donner 4 raisons pour lesquelles ces mots sont destructeurs. Premièrement, parce que ceux qui les parlent s'isolent des gens les plus productifs de la société. À moins que vous ne cherchiez à décrocher un job comme un rappeur, ils sont connus pour leur langage, eh bien, quelqu'un qui veut progresser à son travail, qui veut progresser dans la société, à un moment, ne pourra pas se lâcher dans des mots grossiers. En général, ceux qui peuvent offrir un bon travail n'emploient pas ceux qui utilisent des insultes ou des mots vulgaires. Les mots grossiers diminuent la chance de réussite. Pourquoi ? Parce que les mots grossiers sont une transgression. C'est bien que l'usage des mots grossiers diminue le nombre de personnes avec qui nous pouvons avoir des relations sociales, amicales ou dans les affaires. Vous savez, si je rentre dans un magasin et que j'entends quelqu'un qui utilise des mots grossiers, je sors immédiatement. Dans un restaurant, si j'entends un serveur qui m'accueille avec des mots grossiers, je sors immédiatement. C'est une transgression. Eh oui, mais... imaginez un responsable qui insulte ses employés. Aujourd'hui, il peut être poursuivi, avoir une amende. Mais est-ce que cet employé-là gardera ses employés ? Ben, j'espère que si votre employé vous insulte, vous ne restez pas là. Parce que vous voyez beaucoup mieux que cela. Alors oui, mais tu sais, avec mes copains, c'est différent. Avec nos copains, allez, on lâche des mots comme cela. Oui, je sais, on est chrétien. On lâche des mots, c'est différent. Mais au travail, alors là, je fais attention. Écoutez, il n'y a rien de pire que de se duper soi-même, que de se berner soi-même. Parce que nous sommes un avec nos mots. Ça veut dire que si j'emploie dans un certain domaine des mots grossiers, et que je me refuse à les employer dans d'autres, eh bien, cela veut dire que je me trompe, que je ne montre pas réellement qui je suis à tout le monde et que je suis un hypocrite à un moment donné de la journée. Quelquefois, les gens disent, oui, mais tu sais, je peux me contrôler. Oui, ben, je vais te dire, sous la pression, les mots que tu te permets d'utiliser, tu vas les ressortir. Si par exemple tu dois passer une interview au travail et que c'est quelque chose qui est extrêmement important, eh bien sous cette pression, qu'est-ce qui va sortir de toi ? Ces mots grossiers. Imagine que quelqu'un soit assis à côté de toi, tu ne sais pas que c'est quelqu'un qui a un pouvoir de décision et qu'il t'entende. Donc les mots grossiers nous isole. Les mots grossiers diminuent notre capacité à transmettre nos idées. Parce que ceux qui utilisent des mots grossiers, hormis ceux qui le font pour se fondre dans la masse, ce sont très souvent des gens qui parlent par paresse, parce qu'ils n'ont pas envie d'utiliser, de chercher un autre mot, ou par rébellion. Mais ces mots-là, eh bien, quand il s'agit de s'exprimer, quelqu'un qui est habitué à utiliser des mots grossiers, qui fait preuve de rébellion ou de paresse intellectuelle, eh bien, si un jour il veut une promotion au travail ou qu'il va rencontrer une personnalité importante de la ville, c'est quelqu'un qui va être obligé de faire des pauses pour réfléchir et pour choisir ses mots. Ça va le faire passer pour quelqu'un, quoi, ben, qui n'est pas sincère. Et il perdra l'attention de son interlocuteur. Donc, oui, les gens rient avec les mots grossiers, les gens se permettent d'insulter n'importe quelle personne et de préférence tout le monde, mais il faut savoir que l'usage de ces mots va se retourner contre la personne qui les utilise, et surtout contre le chrétien qui est en train d'utiliser ces mots, sa bouche, pour libérer sa foi. Votre intelligence est obligée de faire le tri quand on se trouve en face de quelqu'un devant qui on ne peut pas utiliser des mots grossiers. Alors certains, oui, ils disent, mais tu sais, tout le monde les parle autour de moi, mais moi je ne les parle pas. Il faut savoir que les mots sont, ont l'effet de grenade, c'est-à-dire qu'elles sont envoyées et elles explosent après. La Bible nous dit, ne tassiez pas en compagnie des moqueurs. Si au travail, si tu entends qu'il y a des blagues qui sont grossières, voire obscènes, tu n'es pas obligé de les écouter. Je le sais. Je le sait. Nous sommes encore moins obligés d'y participer et très certainement, nous ne sommes pas obligés d'en rire. Et on va voir pourquoi. Si ce sont maintenant des amis très proches qui prononcent des mots grossiers, alors tu sais quoi ? Ou tu as une bonne conversation avec eux, ou tu choisis d'autres amis, parce que la Bible nous dit de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Vous dites, c'est quoi ? Il s'agit de protéger la puissance de vie ou de mort qui sort de ta propre bouche. C'est facile de dire n'importe quoi quand tout va bien. Tout roule, tout va bien. Mais quand tout va mal et que nous devons intentionnellement parler la victoire, parler la vie, parler la prospérité, parler la sagesse, alors c'est là que nous voyons à quel point nous maîtrisons les mots qui sortent de notre bouche. Tu sais, nous ne sommes pas victimes de ce que les autres disent de nous. Nous ne sommes pas victimes. Peu importe si ton patron dit « Oh, je ne peux pas le voir, celui-là, il n'aura jamais de promotion. » Si tu sais ce que Dieu dit de toi, tu parles ces choses, tu parles la promotion à l'existence. Et Dieu honorera la foi qui sort de ta bouche. Deuxième raison, c'est que les mots injurieux, les mots grossiers qui sortent de notre bouche amoindrissent l'image que nous avons de nous-mêmes et que nous avons des autres. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit des mots grossiers, peut-être qu'il le dit pour rire, peut-être qu'il le dit pour se venger. Peut-être qu'il le dit parce qu'il croit mépriser l'autre. Mais à vrai dire, qu'est-ce qu'il montre ? Il montre que c'est lui qu'il méprise. Les mots grossiers en disent plus sur la personne qui les porte que sur la personne à qui ils sont envoyés. Vous savez, un jour j'ai entendu cet exemple-là. On parle de la bonne éducation, des gentlemen. Moi, je trouve que la bonne éducation, c'est quelque chose qui est extrêmement important en société. Apprendre des règles de politesse, apprendre à manger à table, apprendre à accueillir, apprendre à dire bonjour, apprendre à honorer. C'est extrêmement important. Et un jour, j'ai entendu l'exemple de quelqu'un qui était extrêmement aisé, qui avait un poste très important. Et il y avait, dans l'établissement où il entrait, il y avait une personne. C'était évident que son statut social était largement inférieur à ce monsieur qui entrait en même temps qu'elle dans le bâtiment. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ouvert la porte et il a dit « Je vous en prie, madame, entrez ». Bien sûr qu'il lui a montré qu'elle avait de la valeur à ses yeux. Mais qu'est-ce qu'il a montré ? Il a montré que lui-même se respectait. Quand quelqu'un écrase les autres à travers les injures, à travers les mots grossiers ou quoi, qu'est-ce qu'il montre ? Il montre qu'il se rabaisse. Et on va voir jusqu'à quel point il se rabaisse. Encore une fois, il s'agit d'utiliser les mots à bon escient. Un mot grossier. Si je t'entends prononcer un mot grossier, j'ai envie de te poser la question, est-ce vraiment qui tu es ? Vous savez, seul Dieu peut mettre de la valeur sur ce que nous vivons. Si ce n'est pas Dieu qui nous montre ce qui est bien et ce qui est mal, mes amis, nous ne savons pas ce qui est bien et ce qui est mal. Et on peut faire quelque chose en croyant que c'est bien pour nous, alors qu'en vrai dire, c'est mal pour nous. Et prononcer des mots en l'air, c'est déjà pas le meilleur, parce que c'est prendre les mots à la légère. Mais prononcer des mots grossiers, des mots injurieux, blaguer avec des mots vulgaires, mes amis, ça n'est pas sans conséquence. Est-ce que vous avez remarqué qu'en général, le vocabulaire vulgaire, eh bien, c'est un vocabulaire qui se moque de Dieu. Ah, si le bon Dieu. C'est bizarre, hein? Souvent, c'est Dieu que l'on prend à témoin. Ou alors, autre chose bizarre, sans que nous cherchions dans notre tête tout un chapelet de mots vulgaires ou grossiers. On sait très bien que les mots vulgaires, en plus de se moquer de Dieu, eh bien, ils font référence à quoi ? Au système, je dirais, d'évacuation humain. C'est-à-dire à tout ce qui se passe dans les toilettes. C'est quelque chose, hein. Alors, imaginez entendre des mots vulgaires. Entendre des mots vulgaires quand on est dans un beau costume, un beau vêtement, à table. Ça s'appelle une transgression. Et oui, ça sent mauvais pour ceux qui l'entendent. C'est un petit peu comme quelqu'un qui a une mauvaise haleine et qui parle. Eh bien, c'est exactement cela. On sent notre mauvaise haleine. Notre interlocuteur sent notre mauvaise haleine lorsque nous prononçons des mots grossiers. Également, le vocabulaire vulgaire en général se moque de Dieu, parle de ce qui se passe dans les toilettes, dans les WC, on va être direct, hein, et puis parle encore de quoi ? Ben, il rabaisse le sexe opposé ou il touche à la sainteté de la sexualité. Ce qui fait dire que si on retire des mots grossiers, le nom de Dieu, la sexualité ou les toilettes, eh bien, en général, il n'y a plus rien à dire. Ce n'est pas glorieux pour un chrétien de prononcer des mots grossiers. C'est-à-dire que très souvent, les mots grossiers amènent en public ce qui se passe en privé. Ça s'appelle quoi ? Eh bien, ça s'appelle se rabaisser à un animal. Un animal ne voit pas la différence entre ce qui est privé et ce qui est public parce qu'il réagit par instinct. Nous, les êtres humains, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains, une espèce à part. Nous sommes à l'image de Dieu. Et quand nous parlons, nous devons choisir de parler la vie. Que font encore les mots grossiers ? Les mots grossiers, donc, ils isolent les gens, parce que c'est très difficile de rester à côté de quelqu'un qui prononce des mots grossiers à longueur de journée. C'est juste pas, ça n'est pas tenable. On ne peut pas continuer à travailler avec un collègue de travail qui continuellement est en train de nous dire qu'à ses yeux, on ne représente rien et qui est en train de nous faire sentir son haleine à longueur de journée. Également, ça amoindrit l'image que nous avons de nous-mêmes et l'image que nous avons des autres. Donc, un mari qui parle à sa femme des mots grossiers est en train d'amoindrir l'image qu'il a d'elle et continuellement apporte cette mauvaise odeur à la maison. Ensuite, eh bien, les mots grossiers conduisent à la violence. C'est-à-dire que les mots vulgaires, si on accepte de les parler, en général, eh bien, ils sont employés de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Et ce qui devient des mots grossiers finit par évoluer en acte violent, c'est-à-dire en une relation qui est abusive. Un spécialiste disait... Les humiliations et les insultes présagent bien souvent des coups. Les mots grossiers, très souvent les gens les prononcent parce qu'ils sont frustrés. Mais les mots grossiers mettent une distance entre nous et la personne à qui nous les adressons. Très souvent, les gens prononcent des mots grossiers parce qu'ils ont des blessures en eux. Et le fait qu'ils utilisent des mots grossiers met de la distance, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin de traiter le problème. Et il faut se demander pourquoi des mots grossiers sortent de ma bouche. La Bible nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur, c'est-à-dire parle de ce qui se passe à l'intérieur. Si je veux savoir qui vous êtes, je vais vous écouter. Donc si quelqu'un, un chrétien né de nouveau, prononce des mots grossiers, il y a juste quelque chose dans son âme, pas dans son esprit. Notre esprit, il est entier. Il est recréé, il est à l'image de Dieu, il est fort, il est rempli de la vie de Dieu. Mais dans son âme, dans l'âme de ce chrétien, il y a quelque chose qui est décalé, qui est blessé. Et il faut mettre le doigt dessus. Il faut laisser le Seigneur s'en occuper de ça. Et puis, ensuite, eh bien, vous savez que ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, si on ne s'en occupe pas, ça escalade. Ça escalade. C'est exactement comme un jardin. Si intentionnellement vous ne faites pas pousser quelque chose, eh bien les mauvaises herbes vont pousser d'elles-mêmes. Et si vous ne faites rien avec ces mauvaises herbes, eh bien très rapidement ça va être la jungle. Eh bien, il y a parfois des gens qui se sont tellement laissés aller aux mots grossiers qu'à vrai dire, ils ont fini par se laisser aller à une activité démoniaque. C'est tellement vrai que je peux vous dire que j'ai rencontré des gens qui passaient leur temps à utiliser des mots grossiers. Dès qu'ils ont accepté Jésus, immédiatement, ça a cessé. Vous savez, moi, par exemple, je prends des cours de peinture une fois par semaine, et dans ce groupe-là, il y a une dame d'un certain âge, une dame qui présente bien, une dame qui est instruite, elle a été institutrice ou prof. Elle est maintenant à la retraite, donc je veux dire qu'elle a quand même elle a eu une activité intellectuelle, et puis elle comprend le poids des mots. À chaque fois que cette brave dame pense avoir raté quelque chose ou pense ne pas arriver à réaliser quelque chose, à chaque fois, cette personne sort une insulte ou un mot grossier. Je ne peux pas vous dire à quel point j'ai hâte qu'elle rencontre le Seigneur. Mais ça parle de quoi ? Elle ne réalise pas qu'elle est en train de dire à tout le monde « je me vois comme une nulle ». Elle est en train de dire à tout le monde « je ne vaux rien ». Alors que personne ne pense cela. Mais c'est sans doute ce qu'on a dû lui apprendre. Et comme elle n'a jamais eu la vérité en face d'elle, elle continue. Alors, tout cela pour vous dire que la Bible nous dit que si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Et l'apôtre Paul nous disait également « je traite durement mon corps, je le maîtrise ». Nous devons apprendre à maîtriser ce qui sort de notre bouche. Alors, comment le faire ? Ancien moi, mot, nouveau mot. Certains disent « ah ben c'est mon style, je ne peux pas changer ». Eh bien, je vais te donner un conseil, mon ami, change de style. Change de style, parce que maintenant tu peux évaluer les dégâts que ça peut faire dans ta vie, dans ton entourage, et peut-être que tu comprends maintenant pourquoi l'exercice de ta foi est tellement difficile et pourquoi tu ne vois pas autant de résultats dans ta vie. Premièrement, demandons pardon à Dieu parce que nous l'avons offensé. Ensuite, si vraiment nous avons prononcé des mots à des proches, demandons leur pardon. dites, écoute, je n'ai pas réalisé ce que cela représentait pour toi, je n'ai pas réalisé ce que c'était en train de faire dans notre famille, je n'ai pas réalisé ce que c'était en train de faire par moi, dans ma vie, mais je ne veux plus de cela. Et avec un peu de patience, on va y arriver. Et puis ensuite, eh bien, il faut se remplir de la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole, eh bien, lisez-la à voix haute. Prions en langue, c'est-à-dire nous sanctifions notre bouche. Demandons à quelqu'un, au Saint-Esprit de nous aider, et peut-être à quelqu'un de proche, de nous aider en disant, peut-être, mais alors il faut trouver, ça ne doit pas être comme, arrête de te dire, je t'ai dit, j'en ai marre de t'entendre. C'est pas ça, ça on n'aide pas quelqu'un comme cela. On n'aide pas. C'est plutôt trouver quelque chose de marrant, je ne sais pas moi, siffler, si bien, ou je ne sais pas moi, un chant, parole, je ne sais pas, un truc. Et donc, quand vous entendez cela, quand vous entendez ce chant à la maison, eh bien, vous savez que vous avez prononcé des mots que vous n'auriez pas dû prononcer, et cela va vous donner l'occasion de quoi ? De refaire votre phrase en utilisant le bon mot. Alors, ça n'est pas le genre de sermon pendant lequel on entend beaucoup d'applaudissements, mais en tout cas. Et puis, une chose encore, eh bien, apprenons à enrichir notre vocabulaire. Apprenons à connaître des synonymes. Et puis, je terminerai en disant que Daniel, qui était un jeune homme dans les Écritures, est quelqu'un qui a choisi de ne pas se souiller. Et résultat, eh bien, il a été promu, et en ce qui le concerne, il a été promu au plus haut poste du pays. Nous, les chrétiens, nous devons nous résoudre à ne pas nous souiller avec le monde. Et à nouveau, il ne s'agit pas juste d'avoir un certain standing, même culturel. Il ne s'agit pas d'avoir un certain standing culturel. Il s'agit de savoir que nous sommes des êtres qui avons été faits à l'image de Dieu et que dans notre bouche réside le pouvoir de la vie, de la mort et de la vie et que personne ne peut choisir pour nous la qualité de vie que nous voulons. C'est à nous de choisir ce que nous voulons. Et ce que nous voulons doit passer par le fait que nous articulons la parole de Dieu. Moi, je crois qu'il va y avoir des changements qui vont être faits. Je crois que certains vont voir leur foi fonctionner. Là où vous avez aviez des questions en disant, eh bien, oh là là, pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Pourtant, je prononce la parole de Dieu. Oui, mais tu prononces la parole de Dieu et puis en même temps, tu prononces des paroles de ténèbres. Ces paroles révèlent l'image que tu as de toi. Non, cette image, elle est belle. Elle reflète Dieu. Peut-être que certains qui sont employeurs parmi nous ont besoin de, je dirais, purifier l'atmosphère à leur travail. Si vous êtes quelqu'un qui avait des responsabilités, si vous êtes employeur, eh bien, cessez d'employer des mots grossiers. Et de deux, si quelqu'un emploie un mot grossier, vous pouvez lui demander, as-tu un synonyme qui soit acceptable, parce que c'est pas tout qui nous trouve un synonyme dans la catégorie vulgaire. Hein. Aurais-tu un synonyme qui soit acceptable ? Ou lui dire, tiens, je te donne ce synonyme. Ça n'est pas vachement bon, c'est extraordinairement bon. Ça n'est pas M alors, c'est ah, oh, j'ai raté cela. Bon, je vais rectifier cela. Maintenant, moi, je ne peux pas choisir à votre place. Hein. Moi, quand la parole sort de ma bouche, je veux qu'elle ait un effet. Et quand je prononce quelque chose, je ne bronche plus. Une fois que j'ai dit ce que je voulais voir, je ne change pas. Je le dis et je reste avec cette parole-là. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Et ça marche, les amis. Ah oui, quelquefois, il faut de la patience. Quelquefois, la patience, ça dure un petit peu plus longtemps qu'on avait prévu. Mais la moisson, elle sera celle-là. Alors, nous allons terminer en prenant le pain et le vin.